Il est 22h ici, à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
L'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir également à vous, Zéphirin Quadio.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, la reprise des discussions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le directeur de l'agence onusienne était à Téhéran, où il est revenu ce dimanche sur la question de la surveillance du programme nucléaire iranien. Les détails dans un instant.
La Hongrie, première étape de la tournée du pape François en Europe centrale, l'occasion d'un entretien avec Viktor Orban en forme de rencontre des contraires, vous l'entendrez.
Et puis Novak Djokovic prêt à rentrer dans l'histoire du tennis. Le numéro 1 mondial peut réaliser le grand chelem calendaire en cas de victoire ce soir en finale de l'US Open.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Et on se rend à Téhéran pour débuter cette édition, la capitale iranienne, où la question du nucléaire était une fois encore au centre des débats ce dimanche.
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, y rencontrait en effet le nouveau chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. Objectif tenté de trouver un accord pour désamorcer la crise entre l'Iran et l'agence onusienne. Sur place, les explications de Siavosh Ghazi.
L'Iran a visiblement accepté de faire un demi-pas en direction de l'agence onusienne. En effet, le nouveau chef du programme nucléaire a qualifié de positif les discussions avec Raphaël Grossi. Il a ajouté que les discussions allaient se poursuivre et que le directeur général de l'AIEA devait revenir à Téhéran pour de nouvelles discussions. De même, l'Iran a donné son accord pour que les cartes mémoire des caméras installées dans le site nucléaire iranien pour surveiller les activités de Téhéran soient changées. Mais les inspecteurs de l'agence onusienne n'auront toujours pas accès à ces vidéos. Dans son dernier rapport, l'agence a sévèrement critiqué l'Iran. En effet, l'Iran n'a pas répondu aux questions de l'agence onusienne sur de l'uranium trouvé dans plusieurs sites anciens non déclarés. De même, Téhéran a limité la surveillance de ces sites nucléaires. Parallèlement à ce blocage, les négociations avec les grandes puissances pour tenter de ressusciter l'accord nucléaire de 2015 sont au point mort, alors que l'Iran poursuit ses activités nucléaires en utilisant des appareils de plus en plus modernes. Les États-Unis et les pays européens qui ont perdu patience demandent à Téhéran de revenir rapidement à la table des négociations, mais Téhéran, qui se sent en position de force, traîne les pieds. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
À la une également la visite du pape François en Europe centrale, avec une première étape à Budapest, en Hongrie.
À Budapest, où il a rencontré le Premier ministre Viktor Orban. Une escale de quelques heures seulement. Il faut dire qu'avec Viktor Orban, les sujets de discorde ne manquent pas. Et c'est sans compter les médias hongrois pro-gouvernementaux qui qualifient François de, je cite, « sénile et imbécile » en raison de son plaidoyer pour les réfugiés. Le Vatican, de son côté, explique la brièveté du voyage en Hongrie par la nécessité de ménager la santé du pape, qui a 84 ans et sort tout juste d'une opération du côlon. Correspondance Florence Labruyère.
Peu de choses ont filtré du bref entretien entre le pape François et le Premier ministre hongrois, mais on sait qu'ils ont parlé d'environnement et de protection de la famille. On a donc évité les sujets qui fâchent, comme l'accueil des réfugiés en Europe, auxquels s'oppose Viktor Orban. Le Saint-Père a ensuite reçu les représentants des différentes confessions chrétiennes et ceux de la communauté juive hongroise, la plus importante d'Europe centrale. Le pape a évoqué la menace de l'antisémitisme qui circule encore. C'est une mèche qui doit être éteinte. Le meilleur moyen de la désamorcer, c'est de travailler ensemble, a-t-il ajouté. L'allusion à l'antisémitisme est une petite pierre dans le jardin du gouvernement hongrois. Car si ce dernier a décrété une politique de zéro tolérance envers l'antisémitisme, il a en même temps mené des campagnes aux accents antisémites contre le financier américain d'origine juive, George Soros. Devant des religieux et des pèlerins du monde entier, le souverain pontife a ensuite célébré la messe de clôture du Congrès eucharistique international. Sous un soleil de plomb, des dizaines de milliers de Hongrois étaient massés dans les rues adjacentes pour voir passer la papa mobile. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Lui s'est rendu en Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar était ce dimanche à Kaboul.
Et Mohammed bin Abderrahman Al-Thani a rencontré le premier ministre du gouvernement taliban. Annonce également de la reprise organise des vols commerciaux demain entre le Pakistan et Kaboul. La compagnie nationale pakistanaise reprendra les liaisons commerciales entre Islamabad et la capitale afghane.
L'actualité dans le monde de cette fin de semaine, ce sont aussi ces 5 militaires tués dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le centre du Mali.
L'armée malienne parle d'un groupe armé terroriste non encore identifié et fait état d'un bilan provisoire humain de 5 morts dans ses rangs et de 3 parmi les assaillants, Zéphirin.
Il est 4h06 à Macao. On votait ce dimanche dans l'ancienne colonie portugaise.
Et des élections législatives pour cette région rendue à la Chine en 1999, région beaucoup moins active politiquement que sa voisine Hong Kong. Macao, en effet, n'a jamais connu les manifestations pro-démocratie qui ont agité Hong Kong en 2019. Et Pékin fait en sorte que cela continue, Christophe Paget.
La commission électorale de Macao, avant même le scrutin, avait déclaré 21 candidats pro-démocratie inéligibles. Ils n'auraient pas respecté la loi de Macao et n'auraient pas été loyaux envers son gouvernement. Une décision confirmée en appel en août dernier. L'Union européenne avait alors demandé que les droits des candidats soient respectés, s'attirant les foudres de Pékin, l'accusant de s'immiscer dans ses affaires. Pourtant, l'île de 650 000 habitants, connue pour ses casinos qui attirent chaque année des dizaines de milliers de touristes chinois, n'a jamais été aussi active politiquement que Hong Kong. Peu de candidats pro-démocratie ont été élus ces dernières années, dans un système qui de toute façon favorise largement les pro-Pékin. Sur 33 députés, seuls 14 sont élus au suffrage direct. Les 12 élus au suffrage indirect représentent des secteurs professionnels largement acquis à la Chine, et les 7 derniers sont nommés par le chef de l'exécutif, lui-même mis en place par Pékin. Et puis si depuis l'an dernier, le gouvernement chinois fait taire toute voix discordante à Hong Kong avec sa loi sur la sécurité nationale, Macao en possédait déjà une depuis 2009.
Christophe Paget, il est 22h07 à Paris, en France. C'est l'élection présidentielle qui est dans toutes les têtes avec Anne Hidalgo, nouvelle candidate dans la course à l'Élysée.
Oui, la maire de Paris a mis fin à un faux suspense en officialisant aujourd'hui sa candidature à Rouen. La maire socialiste ajoute son nom à une liste de postulants déjà fournis à gauche. Par ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen réunissait, elle, ses militants à Fréjus, où elle a confié les rênes de son parti à Jordan Bardella, qui devient président par intérim, manière d'acter son entrée en campagne à plein temps à moins de 7 mois de la présidentielle.
Et on referme ce journal avec un nouveau détour par New York au lendemain des commémorations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.
Le 11 septembre 2001, ils étaient des centaines, des pompiers, des secouristes, des policiers, des médecins appelés sur les lieux des attentats. 20 ans plus tard, ils sont nombreux à avoir développé des maladies en raison des poussières qu'ils ont inhalées. Et ils ont dû se battre pour que ces maladies soient prises en charge. Le cabinet d'avocats s'est notamment investi pour représenter cette communauté, cabinet qui se trouve à tout juste quelques centaines de mètres de Ground Zero, Lubna Anaki.
Ils ont fait des maladies liées au 11 septembre leur spécialité. Ce matin-là, Michael Barrache et Dominique Pinson passent à la radio. Les deux avocats sont invités à parler du fonds de compensation pour encourager les gens à s'inscrire. Car si 80% des secouristes et ceux qui étaient en première ligne sont déjà pris en charge, seuls 7% des 300 000 civils potentiels sont inscrits.
Les gens ne sont pas au courant. Ils ne savent pas qu'ils ont droit aux mêmes compensations que les pompiers et les policiers. Leurs syndicats ont fait du bon boulot, mais la personne lambda qui travaille dans un bureau n'est pas au courant.
Michael Barrache et Dominique Pinson étaient parmi les premiers à se battre aux côtés des secouristes et des civils pour faire reconnaître les maladies du 11 septembre, car eux-mêmes étaient en première ligne.
On était là quand les tours sont tombées. Tous ces immeubles que l'on voit de la fenêtre aujourd'hui n'étaient pas encore construits. On a vu les tours quand elles se sont effondrées.
Comme des centaines de milliers de personnes, ils ont eux aussi été exposés aux poussières toxiques libérées par l'effondrement des immeubles.
La moitié de ce cabinet a eu une maladie liée à cette exposition du 11 septembre.
Selon Dominique Pinson, chaque semaine, ils reçoivent de nouvelles personnes qui souhaitent s'inscrire au fonds de compensation. Il explique que certaines maladies pourraient encore mettre des dizaines d'années à se déclarer. Lubna Anaki, New York, RFI.
On termine avec du sport et le tennis, avec la finale de l'US Open qui commence dans quelques minutes. Elle opposera Novak Djokovic à Daniil Medvedev, respectivement numéro 1 et 2 au classement mondial. Novak Djokovic qui, en cas de victoire, entrera entrera dans l'histoire de son sport en réalisant le Grand Chelem calendaire, soit 4 victoires dans les 4 tournois majeurs dans la même année. Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et celui des États-Unis. Seul Rod Laver l'avait réussi en 1969. Autour de la question.